Le journal Frédéric Barrère.
Bonsoir à tous. Un concert test en ce moment à Bercy. 5000 spectateurs applaudissent Indochine sur scène. Un concert pour faire avancer la science et évaluer les risques de contamination. Mathieu Culeron à Bercy dans un instant. Les habitants de la chapelle sur Erdre rendent hommage à la policière municipale gravement blessée hier dans une attaque au couteau. Les nouvelles de l'état de santé de la policière sont rassurantes. Le musée Carnavalet à Paris bloqué par des grévistes. Le musée devait rouvrir aujourd'hui. Les agents de la ville de Paris sont en grève pour des questions portant sur le temps de travail. Dans ce journal également, la finale 100% anglaise ce soir en Ligue des champions de football, Manchester City face à Chelsea et notre rendez-vous du samedi 19h. Ma vie connectée consacrée ce soir à une exposition sur les fake news, la météo pour demain, encore des orages dans le sud-ouest, Jean-Michel Golinski à la fin de ce journal.
France Inter.
C'est un événement que l'on n'avait plus connu ou vécu depuis de très longs mois et qui nous laisse espérer un retour à la vie d'avant. En tout cas, il s'agit de l'espoir d'un retour rapide à une vie culturelle normale. Et la fête a commencé depuis une heure maintenant. Indochine est en concert à Bercy devant 5000 spectateurs. Un concert test pour faire avancer la science avec un protocole qui doit permettre d'évaluer les risques de contagion et en même temps tester la mise en place du pass sanitaire. Des milliers de spectateurs qui danse devant une scène, cela faisait si longtemps, Mathieu Culeron, reportage juste avant le début du concert.
Habillés de noir, les fans d'Indochine étaient présents dès le début d'après-midi, un soulagement pour la plupart des spectateurs présents.
Très contente, ouais, ça soulage de retrouver une vie et puis de revoir Indochine.
Très excitée, on a hâte, hein, forcément.
Je pense que ce soir, ça va être un grand moment de communion, de retrouvailles, de fêtes qu'on va partager un bon moment. Ouais, je pense que ça va être cool.
Moi personnellement, je suis étudiante et puis là de pouvoir revivre vraiment les choses et puis ouais, la solitude étudiante, c'était compliqué avec le Covid et là ça va être vraiment bien voilà de pouvoir retrouver un semblant de vie normale.
À l'intérieur de l'Accor Arena, les fans masqués mais collés les uns aux autres se précipitent vers le devant de la scène. Alexandra 38 ans et Nadège 34 ans sont en larmes.
C'est inespéré. Ouais, depuis un an et demi, c'est trop bien, j'ai envie de pleurer. C'est beaucoup d'émotions de retrouver tout ça. Ça manque trop à nos vies en fait.
Vous aussi, vous avez les larmes aux yeux?
Ah ouais, là, j'ai vraiment les larmes. Ouais. Je suis super émue parce qu'on l'attendait. Et c'est la vie qui reprend, ça fait du bien, quoi. On en a tous besoin.
Au platine, Étienne de Crécy, le DJ qui joue devant Indochine, entre sur scène. Lui aussi est visiblement ému.
Conditions debout, sans distanciation sociale, avec des masques. J'espère que ça va donner des indications précieuses pour réouvrir. Je suis hyper content d'être là.
L'émotion s'est abattue sur l'Accor Arena avant même l'entrée sur scène d'Indochine. Un parfum de vie d'avant, presque inespéré.
Voilà, et ce concert test à retrouver avec un reportage web sur notre site franceinter.fr. Les habitants de la chapelle sur Erdre, choqués après de longs moments d'angoisse et l'attaque hier contre une policière municipale, saluent aujourd'hui la policière prénommée Catel, une policière, disent-ils, douce et formidable. La commune de la chapelle sur Erdre retrouve un peu sa quiétude et les nouvelles de l'état de santé de la policière Catel sont rassurantes. Elle avait été grièvement blessée hier aux jambes et à la main. Et sur place, c'est un soulagement. Reportage à la chapelle sur Erdre, Boris Loumagne.
Des bouquets de fleurs, des petits mots de soutien. Et cette affiche « Force à toi, Catel ». Voici ce que l'on peut voir devant les locaux de la police municipale au lendemain de l'attaque au couteau. Et alors que l'état de santé de la fonctionnaire s'améliore, la commune pousse un ouf de soulagement. Le maire Fabrice Roussel qui tient à souligner l'attachement qui existe entre ses administrés et la police municipale.
Dès l'après-midi d'hier, ce matin, puisque nous sommes ici au cœur de la Chapelle-sur-Erdre, j'étais sur les commerces également ce matin, la première question, c'est comment va Catel ? Donc ça révèle une grande proximité avec forcément ses collègues, mais aussi l'ensemble de la population, les commerçants. Voilà, donc je tiens aussi à remercier toutes celles et tous ceux qui apportent aujourd'hui un soutien à Catel, c'est précieux dans ce moment-là.
Et il ne faut pas oublier le deuxième policier municipal. L'assaillant a tenté de le poignarder, mais le gilet pare-balles qu'il portait l'a protégé. Un agent qui, même s'il n'a pas été physiquement blessé, est toujours très choqué par ce qu'il a subi.
Concernant l'enquête ouverte pour tentative de meurtre et séquestration, l'agresseur de la policière, un homme de 39 ans, Dianga Dieye, avait été diagnostiqué comme schizophrène, également signalé pour radicalisation. Cyril Canetti est psychiatre en milieu pénitentiaire et ancien chef du service médico-psychologique régional à la prison de la Santé à Paris. Cyril Canetti estime qu'à ce stade, rien ne permet d'affirmer que l'homme souffrant souffrant de schizophrénie était en crise au moment de ses actes.
Malheureusement, on parle très souvent de la schizophrénie au moment d'actes gravissimes qui, encore une fois, sont tout à fait exceptionnels. Donc effectivement, pour beaucoup de personnes, il y a une association entre schizophrénie et dangerosité. Dans la très grande majorité des établissements pénitentiaires, il n'y a pas les effectifs psychiatriques. Souvent, on est dans un désert psychiatrique et les malades mentaux sont très mal suivis. Et évidemment, lorsqu'un sujet comme celui-ci intervient au moment où il y a un projet de loi pour modifier l'article sur l'irresponsabilité pénale pour troubles psychiatriques, ça risque de ne pas peser dans le bon sens. On est actuellement dans un moment d'émotion avec l'histoire de Sarah Halimi et de Kobili Traoré. Je suis de toute façon tout à fait hostile à l'idée qu'on modifie l'article 122.1 du Code pénal. Et en ce qui concerne ce cas précis, rien ne permet de dire qu'il s'agit d'un acte fou, et ce serait dommage de faire un amalgame entre schizophrénie et dangerosité ou radicalisation.
Cyril Canetti avec Cécilia Arbona. Le musée Carnavalet à Paris bloqué par les grévistes. Le musée devait rouvrir aujourd'hui au public après 4 ans de travaux pour une rénovation intégrale, façade, toiture et mise aux normes du site. L'inauguration du musée rénové par la maire de Paris, Anne Hidalgo, et Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, avait eu lieu mercredi. Aujourd'hui, l'entrée du musée le plus ancien de la capitale au cœur du quartier du Marais est bloqué par des agents de la ville de Paris en grève pour des questions portant sur le temps de travail. Des milliers de manifestants aujourd'hui aux quatre coins du pays pour défendre les langues régionales et l'enseignement immersif. Des milliers de personnes en Bretagne, au Pays Basque, des centaines à Colmar ou à Bastia pour contester la censure par le Conseil constitutionnel d'une partie de la proposition de loi sur les langues régionales et en particulier l'apprentissage dit immersif qui consiste à pratiquer la langue régionale sur une partie du temps scolaire à l'école. À l'étranger, en République démocratique du Congo, après le chaos et la panique d'une évacuation dans la crainte d'une nouvelle éruption du volcan Nyiragongo, la situation semble revenir à la normale. Les secousses et les tremblements de terre ont baissé d'intensité et l'annonce ce matin d'une nouvelle éruption d'un second volcan proche du Nyiragongo était finalement une fausse alerte. Claude Guibal, notre envoyé spécial, se trouve à la frontière entre le Rwanda et la République démocratique du Congo il y a 48 heures. 400 000 personnes ont fui Goma au Congo pour aller vers le Rwanda. Reportage.
Au bord de la route, bordée de bananiers, ils se sont regroupés. Une famille entière, 33 personnes, des femmes, des enfants, ils attendent autour de quelques sacs et des valises fatiguées. Samedi dernier, ils sont partis en courant lorsque la lave du Nyiragongo est descendue sur la ville.
Je n'étais pas à la maison, j'étais à l'autre côté. Et puis quand j'arrive à la maison, à 18h, on a fui.
Vous avez pu emporter des choses avec vous ou vous avez tout laissé derrière vous?
Non, non. Seulement c'est les habits et un peu à manger pour nous sauver.
Ils ont fui en courant depuis Goma jusqu'à Petite Barrière, le poste frontière qui sépare la RDC du Rwanda. La vieille femme qui s'accroche à son bidon d'eau n'en démord pas. Ce qu'elle dit, c'est qu'elle veut rentrer car on leur a téléphoné pour leur dire que des pillards avaient sauté la clôture de chez eux pour tout voler. Ces voleurs qui viennent s'ajouter à une semaine de secousses quotidiennes et à cette menace de ce lac Kivu plein de gaz toxique qui pourrait s'échapper si la lave l'atteignait. Dans son regard, il y a de la fatigue alors que la nuit s'approche et c'est lendemain. Mains incertains. Aboussa Samana, Claude Guibal, Jérémy Tuile, France Inter.
Le rendez-vous foot ce soir avec un choc anglo-anglais en finale de la Ligue des Champions au stade du Dragon à Porto au Portugal. Manchester City face à Chelsea devant 16 000 spectateurs et même un peu plus. En direct de Porto, notre envoyé spécial Nicolas Perronnet. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Frédéric.
Alors une finale 100% anglaise avec des supporters de Manchester et de Chelsea qui font, j'imagine, monter la température à Porto à un peu moins de 2 heures du coup d'envoi.
Oui, ça a commencé tôt ce matin déjà avec un défilé à l'aéroport pour ce déplacement très encadré. 80 vols charter en provenance de Londres et de Manchester. La plupart de ces supporters n'étaient pas sortis d'Angleterre depuis un an et demi. Toute la difficulté en fait pour les autorités, ça a été de limiter toute la journée les contacts autant que possible avec la population locale, même si ces 12 000 supporters, 6 000 de chaque camp, ont tous dû présenter un test PCR négatif avant d'embarquer. Voyage express, alors déjà de l'aéroport jusqu'aux deux fan zones, une pour chaque club dans Porto, et puis des fan zones jusqu'au stade du Dragon grâce à 180 autocars, une bulle sanitaire très discutable quand même, déjà parce que des centaines de supporters sont venus sans billets, donc hors dispositif, et puis embarqué ou pas, il y avait toute la journée beaucoup de maillots bleus effectivement dans les rues et sur les terrasses de Porto, le bleu clair de City, le bleu un peu plus foncé de Chelsea, 12 000 supporters anglais qui sont donc en train de prendre place dans ce stade du Dragon qui peut en accueillir entre 3 et 4 fois plus. Ils repartiront à l'aéroport dès la fin du match. L'objectif, Frédéric, c'est qu'il reste moins de 24 heures sur le sol portugais.
Nicolas Perronnet, merci, en direct de Porto. Et puis en handball, ce résultat historique pour les Brestoises qui se sont qualifiées cet après-midi pour la finale de la Ligue des Champions. C'est la première fois pour un club féminin français. Les handballeuses de Brest ont battu les Hongroises de Győr, triple tenante du titre, et demain, en finale, elles affronteront soit les Russes du CSKA Moscou, soit les Norvégiennes de Kristiansand. Notre rendez-vous du samedi 19h avec Christine Siméon et Ma Vie Connectée. Bonsoir Christine.
Bonsoir Frédéric.
Alors vous êtes sortie des écrans pour aller voir une exposition à l'espace Fondation EDF à Paris, Fake News, Art et Fiction, un parcours bien utile, Christine, dans le monde de fausses informations.
Alors suivons d'abord l'un des commissaires de cette exposition, Laurent Bigot, qui est aussi directeur de l'école publique de journalisme de Tours.
Alors, on va aller la voir de près.
Dans la partie diffusion, l'œuvre de Samuel Rousseau, elle montre à quel point les informations qui sont générées en continu peuvent se disséminer très largement et dans toutes les directions.
Ce que Laurent Bigot nous montre, là, c'est une œuvre où se diffuse sur un mur et à l'infini les petites lumières échappées d'une boule de papier journal.
Ça le montre avec poésie, tandis que tout un tas d'autres œuvres ici vont plutôt se focaliser sur des aspects plus techniques de la fabrication de l'information.
Alors Christine, plus technique, plus pédagogique peut-être, cela donne quoi exactement ?
Par exemple, comment fabriquer une vidéo qui montre une ville dévastée par des bombardements avec un fond vert, une maquette en carton ou en papier mâché et un smartphone ? Comment les intelligences artificielles, autre exemple, peuvent faire dire à n'importe qui à peu près n'importe quoi, c'est-à-dire falsifier le discours d'un président. On le sait, c'est possible.
C'est vrai que ça peut aussi avoir un petit côté effrayant parce qu'on voit à quel point toutes les sources d'informations peuvent regorger de trahison de la vérité en quelque sorte. Le grand public, il peut très bien se dire oui, il nous faut des fact-checkers, sinon on n'a aucune chance de s'en sortir, ça c'est vrai. Mais il y a un autre message derrière, c'est la question de l'éducation aux médias. Si on l'apprend à l'école peut-être déjà, peut-être qu'on sera capable ensuite de ne plus tomber dans tous les pièges, ou en tout cas d'avoir ce petit moment de recul qui permet de confronter l'information qu'on a devant soi à une autre information, faire un petit recoupement et du coup de mieux s'en sortir, de mieux savoir si on peut faire confiance ou pas à telle ou telle source, tout simplement.
Je fais des clics, des petits clics, encore des petits clics.
Et là, Christine, je reconnais l'air du poinçonneur des Lilas de Gainsbourg.
Oui, c'est la version revisitée par l'artiste Philippe Villas-Boas pour le poinçonneur de l'IA, pour intelligence artificielle, pour nous rappeler que tous nos clics si peu réfléchis nourrissent des intelligences artificielles et ceux qui les mettent en œuvre à leur profit, qui ne sont pas forcément les nôtres. Au bout du mécanisme, c'est un monde qui se crée, nous dit cette exposition, un monde purement artificiel. Vous cliquez, nous cliquons et nous créons, co-créons des profils de consommateurs, de militants, de fans, dont la question n'est même pas de savoir s'ils correspondent à la réalité.
Ma Vie Connectée, Christine Siméon, à retrouver sur franceinter.fr. Le temps pour demain.
La météo avec Air France Protect. Réservez avec la plus grande flexibilité et voyagez en toute sérénité sur l'ensemble des vols Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Jean-Michel Golinski.
Une journée de la fête des mers sous le coup de températures partout confortables, de 9 à 13 degrés au lever du jour dans la moitié nord, 14 à 18 de l'Aquitaine à la Méditerranée. L'après-midi, le minimum sera pour le littoral de la Manche vers 16 degrés en moyenne, le maximum pour le Gard et le Tarn-et-Garonne avec près de 28 degrés. Il est prévu 26 à Bordeaux, 25 à Limoges et Lyon, 23 à Nantes, Bourges, Paris, Besançon et Rennes, 22 du côté de Rouen, courant de l'île de Reims et de Strasbourg, avec, tout comme aujourd'hui, un soleil qui va se montrer sous un ciel variable, parfois déjà assez voilé le matin sur les régions de la moitié ouest. En seconde partie de journée, des averses vont se déclencher du sud des Alpes à la montagne Corse, avec parfois de l'orage sur le Mercantour, mais c'est surtout entre les Pyrénées et le Massif central que l'ambiance de l'après-midi va devenir lourde et orageuse.